Africa.
Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous allons retrouver dans quelques instants nos invités pour analyser les conclusions du sommet sur le financement des économies africaines tenu hier à Paris. Mais pour l'instant, retrouvons notre invité décryptage pour parler sport et foot.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Lansana Camara, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef de Pan-African Football. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui a été déterminant dans la décision de Didier Deschamps de rappeler Karim Benzema parmi les Bleus après plus de 5 ans d'absence?
Ce qui a été déterminant, c'est que Karim Benzema, depuis le départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus, est extraordinaire. Il porte à bout de bras le Real Madrid. Il est devenu un top player. Et Didier Deschamps sait qu'après la Coupe du Monde, il n'a plus d'attaque. Mbappé n'est plus une foudre de guerre comme il devrait l'être. Giroud est devenu intermittent du spectacle. Il ne joue même pas avec Chelsea. Depuis le mois de mars, le staff technique de l'équipe de France, ils se sont dit pourquoi pas ouvrir une fenêtre pour que Benzema retrouve l'équipe de France. Benzema et Didier Deschamps se sont retrouvés à Paris, quelque part dans le monde au mois d'avril. Comme des grands, ils ont mis les dossiers sous la table et se sont convenus de retravailler ensemble et pour le bien de l'équipe de France.
C'est vrai que Benzema avait une performance qui parlait pour lui et qui parlait d'ailleurs pour lui. Meilleur joueur français de l'étranger 2021. Il a joué 148 matchs et marqué 66 buts et remporté 4 fois le championnat de France. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'au-delà de cette performance, il y avait aussi un besoin pour Didier Deschamps de fortifier sa défense, son attaque un peu en panne.
Oui, c'était ça. C'était joindre l'utile à l'agréable. Donc il fallait trouver une solution pour trouver des attaquants. Comme je vous ai dit, Giroud ne joue pas avec Chelsea. Mbappé n'est pas au niveau depuis un certain temps, même si ça reste un joueur extraordinaire. La France a besoin d'attaquants, a besoin d'un
réel buteur. Il y avait besoin de nouveautés peut-être au sein de cette attaque
de l'équipe de France. Donc Benzema répond aux critères. Adidas a tout résumé hier en tweetant deux confinements, terrasse, Benzema, retour à la normale en France. Donc tous les journaux français, à partir de l'équipe, les radios, les médias ont tous salué le retour de Benzema, 5 ans d'absence en équipe de France.
Mais à 33 ans, vous êtes en train de nous dire que malgré son âge, s'il est sur la liste définitive de Deschamps, il a toute sa place à l'attaque française. À côté des attaquants plus jeunes comme ceux que vous avez cités tout à l'heure.
On ne prend pas des joueurs comme Benzema pour les mettre à la touche. Quand on prend un joueur comme Benzema, c'est qu'il soit l'attaquant, qu'on construit l'équipe autour de lui, mais autour des éléments comme Mbappé. Les attaquants pour l'Euro 2021 seront Mbappé et Benzema à l'attaque. Après Griezmann, ils vont essayer de construire l'équipe autour.
Vous voulez dire que les Mbappé, Giroud et Pogba ou encore Griezmann pourraient se retrouver en plus de chances d'être à la touche plutôt que Benzema?
Non, Mbappé ne sera jamais à la touche, mais Mbappé, Griezmann, Pogba, c'est des cadors de l'équipe, mais Benzema sera une valeur ajoutée.
Et comment imaginez-vous justement son intégration au sein des Bleus? Est-ce que ce sera facile pour lui, après autant d'années d'absence?
Ça sera facile pour lui, comme il est intelligent. Il sait que sans lui, cette équipe a gagné la Coupe d'Europe, a été finaliste de la Coupe d'Europe en 2016. Sans lui, cette équipe est championne du monde. Donc, s'il veut avoir sa place dans cette équipe-là, c'est à lui de se fondre dans l'armure. C'est à lui de s'intégrer. Ce n'est pas aux autres d'aller vers lui. C'est un garçon intelligent qui a, depuis 7 ans qu'il est au Real Madrid, ça se passe très bien dans le vestiaire. Il n'a jamais eu de problème en équipe de France dans le vestiaire. Je pense que Benzema est un top player il sait ce qu'il vaut.
Un top player qui, selon vous, a besoin d'humilité, doit se montrer humble pour...
Il doit se montrer humble. Il ne doit pas faire comme en 2008, à l'Euro, quand il a eu des problèmes avec Thierry Henry dans le bus. Donc, toutes les gamineries qu'ils ont eues lorsqu'il avait 20 ans, 25 ans, il faut qu'il arrête ça. Là, il a 33 ans, c'est sa dernière chance de montrer que c'est un grand joueur. Si par malheur, il ne brille pas à l'Euro, si par malheur, l'équipe de France n'est pas champion d'Europe ou ne part pas loin dans cette Coupe d'Europe-là, il sait que le retour du bâton sera rude.
Pensez-vous qu'il va falloir compter avec lui quand même pour espérer que les Bleus puissent remporter ce championnat dont vous venez de parler?
Il faut compter sur lui, c'est un grand attaquant. Il fait parmi aujourd'hui.
Peut-être parce qu'il a il a légitimement une revanche à prendre et une place.
Il a une revanche à prendre. Oui. Il a une revanche à prendre. C'est à lui de le montrer sur le terrain.
Merci beaucoup, Lassana Camara, rédacteur en chef de Pan African Football, d'avoir été notre invité.
Africa, le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et nous parlons donc ce soir des conclusions du sommet sur le financement des économies africaines tenu hier mardi ici à Paris. Une initiative du président français Emmanuel Macron. Ce sommet a-t-il tenu ses promesses? Nous en débattons ce soir avec trois invités. Cheikh Oumar Sy, bonsoir.
Bonsoir.
Président de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique, OCDEA. Vous êtes également coordonnateur de la plateforme Djami Réumi, la paix pour le Sénégal. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Yves Ekwe Amaizo, économiste. Monsieur Amaizo, bonsoir.
Bonsoir.
Spécialisé en stratégie et directeur de Afrocentricity à Lyon, ici en France. Et également en France, Martial Zebelinga, bonsoir.
Liliane.
Allô, Monsieur Bellinga?
Oui, je vous écoute. Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste et sociologue, expert associé au comité scientifique de l'UNESCO pour l'histoire générale de l'Afrique et membre de la revue Présence africaine, également auteur et éditorialiste. Merci beaucoup, messieurs, d'être avec nous. Deux décisions majeures sont donc sorties de ce sommet sur le financement des économies africaines voulu par Emmanuel Macron. Il y a d'abord ce consensus sur la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid qui pourraient être produits sur le continent. Il y a aussi et surtout ce possible accord politique entre grandes puissances d'ici juin et octobre au sujet de ce que vous les espères de l'économie appelée DTS, ce sont les droits de tirage spéciaux. Je vais commencer avec vous, monsieur Amaizo. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui a été décidé, de ces deux points importants, ou en attendiez-vous mieux?
Merci beaucoup pour l'invitation. Je m'attendais à beaucoup mieux. Vous savez, quand on décide, suite à ce qu'a dit les Américains, notamment le président américain, de faire en sorte qu'on puisse mettre les brevets à disposition, ce n'est pas du financement. Et c'est une proposition qui n'est pas encore prête d'être approuvée. Donc pour le premier résultat dont vous avez parlé, je ne vois pas où est le financement de l'économie africaine. Pour ce qui est des droits de tirage spéciaux...
Pardonnez-moi, si on faisait cette lecture, ce n'est pas du financement, il n'y a eu aucun financement, on l'a dit, mais le fait de permettre aux économies, aux pays africains de produire eux-mêmes le vaccin, est-ce que cela ne limite pas un peu le coût de production qui aurait forcément nécessité des investissements?
Oui, vous m'avez présenté comme économiste. Je vous rappelle que j'ai fait plus de 20 ans aux Nations Unies spécialisé pour l'industrie. Donc, vous posez une question que je maîtrise parfaitement. Le problème de votre question, c'est qu'elle n'est pas tout à fait exacte. Je vous dis encore une fois, on a annoncé des paroles, il n'y a aucun acte. Personne n'a jamais été contre de mettre des industries en Afrique et de créer des emplois en Afrique. Personne. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des paroles, des promesses qui ne passent jamais dans la réalité. Et je suis très bien placé pour vous dire, je vous donnerai beaucoup d'exemples tout à l'heure. Donc je reviens sur le premier point, il n'y a pas eu de résultat concret de financement ou de refinancement même des économies africaines sur le premier point. Sur le deuxième point, c'est important aussi, les droits de tirage spéciaux, ce sont des mécanismes et surtout, en fait, une monnaie de compte. Il n'y a pas qu'elle, Ça, c'est au niveau du Fonds monétaire international, au niveau des institutions de Bretton Woods à Washington. Nous, les Africains, nous avons le nôtre, qu'on appelle l'unité de compte, et qui se trouve au niveau de la Banque africaine de développement. On se demande d'ailleurs pourquoi on n'a pas voulu utiliser celle de la Banque africaine de développement et qu'on a choisi le Fonds monétaire international. Et là encore, vous dites qu'il y a eu des résultats. Deux éléments qu'il faut mettre en bémol. La première chose, tout ce que fait le Fonds monétaire international, c'est du court terme, et du très court terme, 1, 2, 3 ans, renouvelable. Les économies africaines ont besoin de financements longs. L'infrastructure, l'industrie dont vous avez parlé, l'agriculture avec sa mécanisation, sa transformation, etc., les services, et j'en passe, c'est des meilleurs. Il faut du long. Et le long fonctionne en économie sur deux choses. Il faut que vous ayez un environnement de gouvernance qui soit sain, qui fait que vous pouvez, vous, ça, aller directement sur le marché financier à des taux d'intérêt faibles pour pouvoir vous financer.
Merci.
Ce n'est pas la théorie, le Botswana le fait, le Bénin est en train de le faire, etc.
Merci, M. Amaïso. On va faire un premier tour de table sur déjà ces deux points qui ont été décidés à ce sommet de Paris. Et puis, évidemment, on reviendra un peu plus en détail sur comment cela va se faire, l'opérationnalisation de ces DTS. Monsieur Zebelinga, pour vous aussi, sommet pour rien, pas de résultat, c'était inutile alors de se réunir pour parler du financement des économies africaines au vu de ces résultats?
Alors, je m'associe à ce que vient de dire Yves Kouamaïso, d'une façon générale, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour dire vrai, la véritable question pour moi, c'est même déjà l'opportunité du sommet. Et l'opportunité du sommet, les promesses du sommet sont extrêmement ambiguës. Est-ce que c'est une question de financement? Et dans ce cas, est-ce que c'est une question de financement? Est-ce que c'est une question de relance post-Covid? Est-ce que c'est une question d'industrialisation? Comme dit Yves Kouamaïso, l'industrialisation, c'est des processus longs, mais c'est aussi une ingénierie, c'est repenser les chaînes de valeur, etc. Et là, on n'y était pas. Vous savez, on ne peut pas en permanence parler d'endettement sans parler des causes de l'endettement. L'endettement n'arrive pas par hasard. Et si l'endettement revient, c'est qu'il y a des causes structurelles auxquelles on ne s'attaque pas. Or, toute cette rencontre ne s'attaque pas aux causes structurelles. Et l'impression que ça me donne, finalement, c'est qu'on cherche à trouver des mécanismes qui permettront aux Africains d'acheter des vaccins, dont on n'est pas complètement certain qu'ils soient absolument utiles aux Africains, il faut quand même le dire. C'est la partie du monde qui est la moins touchée.
Et qui connaît aussi d'abord une forte réticence sur le continent.
Qui continue exactement, et puis c'est la partie du monde qui est touchée par contagion économique, c'est l'économie de confinement mondial qui crée le ralentissement économique en Afrique, ce n'est pas la crise sanitaire. C'est très étonnant qu'on fasse basculer les choses, et sur le financement des vaccins, hein, qui d'une façon ou d'une autre sera quand même un financement qui bénéficiera aux grandes firmes pharmaceutiques qui ont fait des essais vaccinaux. En grande partie, c'est de ça qui sera question. Alors, est-ce que les outils financiers vont servir finalement à remonter vers le nord, ou alors, pour moi, le sommet est très ambigu.
Il
est
merci,
très ambigu,
Monsieur Bellinga.
Et je doute même de son utilité.
Monsieur Omar Sy, vous êtes également dans la même analyse? Le compte n'y est pas.
Oui. Mais quand les économistes eux-mêmes font le constat, moi le profane, je dis que ils ont parfaitement raison. Moi déjà, je suis très sceptique à chaque fois qu'on parle de sommet France-Afrique, Chine-Afrique, États-Unis-Afrique. Je me demande même comment 17 pays africains peuvent aller juste dans un pays comme la France et dire qu'ils vont aller relancer leur économie là-bas. Prenons la France qui fait 60 millions d'habitants. Et tout c'est à peu près, quand je calcule sur les 14 pays, on a 325 millions d'habitants. Donc la France décide pour nous. Et au-delà de cette décision, comme mes précédents nous l'ont dit, on a des résultats ambigus. Est-ce qu'on parlait de la relance post-Covid avec les questions sanitaires?
Mais on a entendu le président sénégalais Macky Sall se féliciter de ce que, pour une fois, le paradigme a changé. Les pays africains sont associés à la recherche des solutions. Ce n'est plus des solutions clés en main qu'on décidait sans les Africains comme avant.
Mais la solution, c'est quoi? Aujourd'hui, vous prenez les États-Unis, c'est 22 000 milliards de dettes. Vous prenez l'Union européenne, c'est 14 000 milliards de dollars de dettes. Vous prenez la Chine, c'est 40 000 milliards de dettes. l'Afrique dont on parle, c'est 800 milliards de dettes. Aujourd'hui, les prévisions avec le FMI d'ici 2023, le déficit de l'Afrique, c'est 290 milliards de dollars de dettes. C'est en deçà des États-Unis, de la Chine. Et nous, la vraie souveraineté dont on parle depuis, et les économistes l'ont souligné, c'est que les États africains doivent pouvoir aujourd'hui financer le développement avec une monnaie souveraine. Aujourd'hui, les pays qui nous interpellent pour une bonne gestion de notre gouvernance, pour la relance économique, ont eux-mêmes imprimé leur monnaie. Ils ont injecté un financement pour soutenir leurs entreprises. Ils ont envoyé des chèques aux foyers, aux États-Unis, en Europe et un peu partout. On nous demande par contre de venir voir des droits de tirage spéciaux sur lesquels on va payer des intérêts. C'est-à-dire comme si tu allais à la banque te dit oui, je vais te prêter de l'argent, mais comme cette fois-ci ça va être différent, tu vas juste payer, mais vous allez payer des intérêts qui vont être régulés au quotidien.
Merci.
Et nous mettre dans un autre truc. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, le sommet, pour moi, n'a pas été pertinent et ne peut pas relancer les économies africaines.
Merci. On vous reviendra tout à l'heure sur ces DTS.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous parlons ce soir du sommet sur le financement des économies africaines qui s'est achevé hier mardi ici à Paris. Les DTS, ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux, sont-ils vraiment la solution pour relancer l'économie africaine post-Covid? Enfin, le New Deal souhaité par le dirigeant français Emmanuel Macron pour l'Afrique est-il possible? Nous en parlons ce soir avec trois invités. Cheikh Oumar Sy, président de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique, OCDEA. Yves Ekwe Amaizo, économiste spécialisé en stratégie et directeur de Afrocentricity ici en France. Et Martial Zé Belinga, économiste et sociologue. Messieurs, je voudrais vous redonner quelques minutes encore la parole, Monsieur Sy, pour terminer vos propos sur les DTS. Vous étiez en train d'expliquer son mécanisme de fonctionnement et vous disiez que vous doutiez que ce soit la bonne façon de financer réellement l'économie africaine qui a besoin de 300 milliards de dollars, estime le Fonds monétaire international. Monsieur Oumar Sy?
Oui, effectivement. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, le financement de l'économie africaine et surtout les mécanismes dont on a besoin pour vraiment relancer l'économie africaine, elle doit être sous-tendue d'une souveraineté monétaire. Et on le sait aujourd'hui quand, par exemple...
Là, vous parlez de le dossier de franc CFA, la question du franc CFA.
Oui, que ce soit la question du franc CFA, mais c'est fondamental. Aujourd'hui, on nous parle des droits de tirage spéciaux, mais on sait que c'est un cycle qui va revenir, un cycle de dette qui va revenir. On nous parle de moratoire. Mais la question centrale, est-ce que les chefs d'État africains ont la capacité de dire et de d'imposer que la monnaie africaine doit être aujourd'hui une réalité pour pouvoir financer le développement de l'Afrique? C'est la question centrale.
Merci.
Si cette question-là ne peut pas être réglée, on va tourner autour du pot. Mais la Banque mondiale, FMI, vont continuer à nous tenir par le collet.
Merci, M. Sy. Alors, M. Amaizo, je voudrais plutôt qu'on insiste un peu sur ces DTS. Comment fonctionnent-ils de manière concrète?
Les DTS, madame, c'est une unité de compte. Vous savez, la monnaie, vous avez un volet de paiement. Vous pouvez payer avec votre argent, vous pouvez compter avec votre argent et vous pouvez aussi mettre en réserve votre argent. Justement, le DTS, c'est une monnaie de compte créée par le Fonds monétaire international, il faut bien préciser là-dessus, c'est-à-dire que les patrons, les conseils d'administration du Fonds monétaire international, ce n'est pas les Africains. On ne vaut même pas 3 ou 4% là-bas. Donc quand on vous dit d'aller vers des créanciers qui en plus sont les patrons du Fonds monétaire international pour aller vous endetter à court terme, parce que tout ce que vous pouvez obtenir, ce n'est que du court terme. Et pour pouvoir l'obtenir, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un jeu qui permet d'augmenter vos possibilités d'endettement à court terme. J'insiste encore dessus. C'est prévu normalement pour les balances de paiement, c'est-à-dire quand vous avez des petits déficits de l'État, et vous devez les rembourser assez vite à des conditions draconiennes.
Donc vous voulez dire qu'en réalité, ces DTS ne profiteront pas à l'Afrique et l'Afrique n'est pas...
5%. Oui. Madame, c'est 5% que l'Afrique pourrait. Pour le moment, ce n'est pas approuvé. Hein, parce que tout ce que vous dites là, c'est pour ça que je reviens...
C'est sous réserve des négociations entre...
Sous réserve avec des sommets et des conférences, ça ne se passe jamais. Il faut qu'on soit clair avec les Africains, ça ne se passe.
Et l'Afrique devrait bénéficier de 33 milliards seulement de ces 650.
Non, mais attendez, vous êtes dans les rêves, là. Vous êtes dans des rêves.
Mais c'est ce que disent les conclusions de ce sommet.
Oui, mais les conclusions, c'est une chose. Et regardez toutes les conclusions du G7, G8, je ne sais pas lesquelles ont été exécutées pour l'Afrique. Ce que j'essaie de vous dire, il n'y a pas de plan Marshall. Qu'on soit clair là-dessus, les Africains rêvent trop, il n'y a pas de plan Marshall.
C'est le New Deal dont parle Emmanuel Macron.
Attendez, c'est les Européens qui ont refusé de financer le plan Marshall africain, que ce soit depuis les temps coloniaux, parce qu'il y a le volume d'esclavage, que ce soit au niveau de 45 après la Deuxième Guerre mondiale où les tirailleurs sénégalais ou autres n'ont pas reçu, et que ce soit les années 60 au niveau de ce qu'ils ont appelé l'aide au développement des 1%. Donc c'est cette aide au développement des 1% qu'ils n'ont jamais atteint, ils ne sont même pas arrivés au 0,7, nous sommes à 0,4 à peu près actuellement, et qu'ils sont incapables de le payer, alors ils ont trouvé de nouveaux mécanismes. Et tout à l'heure, M. Zeniga a dit quelque chose d'important, ils sont allés s'embriquer dans des histoires de vaccins. L'Afrique n'a pas de problème fondamentalement et ils essaient d'utiliser cette méthode qu'on payait. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays africains aujourd'hui qui payent deux fois, trois fois plus cher le vaccin AstraZeneca que l'Autriche vient de refuser, que d'autres pays ont refusé pour aller vacciner des gens qui ne sont pas malades? C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Il faut dire la vérité aux gens.
Monsieur Amaïzo, s'il vous plaît, juste un mot sur ce que vous disiez dans la première partie avant de retrouver Monsieur Zebelinga. Vous expliquiez que, au fait, au niveau de la Banque africaine de développement, il y a un mécanisme équivalent au DTS auquel on n'a pas fait appel.
Absolument.
De quoi s'agit-il ?
L'unité de compte, qui est aussi une monnaie de compte que la Banque africaine a mis à disposition et que peu de gens connaissent, mais qui existe. Et qui d'ailleurs est basé sur une sorte de panier de monnaie, qui fait en sorte d'ailleurs que si, quand on veut penser demain à une monnaie continentale ou une monnaie africaine commune ou sous-régionale, il faudrait penser passer ces mécanismes-là. Pourquoi nous devons toujours aller chercher ailleurs? Pour votre information, il aurait fallu que l'Afrique ait ce qu'on appelle le fonds monétaire africain. J'ai même été expert pour ça. Donc c'est ce que j'essaie de vous montrer. Systématiquement,
ce que souhaitait le défunt Kadhafi.
Non, c'est pas que Kadhafi, il y a beaucoup de gens qui ont participé. Le fait de mettre en place des mécanismes de gouvernance ou d'environnement des affaires, c'est pas des choses en l'air. Ça vous permet d'asseoir votre crédibilité et que vous êtes capable de rembourser. À ce moment-là, le marché mondial, le marché international de l'argent va vous prêter. C'est ça que les Africains ne comprennent pas. On n'a pas besoin d'aller au Fonds monétaire international, encore moins d'aller prendre un tout petit bout qu'on appelle le DTS, qui n'est valable qu'à court terme et qui n'est même pas encore approuvé.
Merci. Monsieur Zebelinga, quand on écoute Monsieur Amaïzo, on a le sentiment que les chefs d'État africains qui ont participé à ce sommet, ont eu tort de s'enthousiasmer autant sur ces DTS et aussi qu'il y a comme un refus de la part de ces bailleurs d'opter pour des solutions africaines et ils préfèrent imposer leur mode de financement.
Alors, je suis assez d'accord avec l'ensemble de ce qui a été dit avec des nuances. La première chose, je vous dis que les hommes politiques auraient eu raison ou pas, il faut savoir une chose, en économie, il y a une théorie qu'on appelle la théorie des choix publics. Et on nous dit là-dedans que les hommes politiques ont leur propre raison de mener des actions économiques. Et les hommes politiques ne mènent pas nécessairement des actions économiques pour avoir des résultats économiques, mais d'abord pour avoir des résultats politiques, parce qu'ils sont politiques, ces hommes-là. Et alors après, il peut y avoir des résultats économiques intéressants. Mais vous savez, sur la longue durée, on n'a pas trouvé dans les grands sommets, dans les grandes rencontres, on n'a pas trouvé de solution aux problèmes africains. Et on ne pourra pas trouver de l'extérieur des solutions africaines pour une raison très simple. Même si l'Europe était de bonne foi, même si l'Occident était de bonne foi, la situation des pays africains n'a rien de comparable à celle des pays occidentaux. Même quand les occidentaux se sont développés, ils sont passés par des révolutions industrielles, etc. Ce n'est pas le même processus. Ils n'ont pas connu la colonisation, la traite négrière de la même façon. Donc l'état des économies n'est pas le même. Ils ne peuvent pas penser des solutions africaines. L'exemple très clair, c'est qu'on pense toujours relance économique, on pense croissance, alors que la croissance n'est pas le développement. Les outils de la croissance ne sont
donc,
pas...
Donc vous comprenez, au regard de vos explications, que les bailleurs occidentaux soient peut-être dans une dynamique de proposer des solutions qui, pour eux, sont les plus adaptées, alors qu'elles ne le sont pas regard africain.
D'abord, ce que les Africains ont appelé une coproduction, même si c'était une coproduction, ça resterait problématique parce que l'Europe n'appelle pas les Africains pour coproduire des plans de développement européens. Les Américains n'appellent pas les Africains pour coproduire un plan de croissance américain, encore moins les Asiatiques. Donc, que ce soit la terminologie qu'on essaye de mettre en avant, coproduction, etc., ça reste problématique. Alors, est-ce que, là est la question, est-ce que on peut dire que les propositions qui sont faites sont des propositions de bonne foi pour réduire l'endettement? J'en doute. Pour une raison simple. D'abord, l'Afrique n'a pas d'abord un problème d'endettement, il faut quand même le dire. On est autour de 60% d'endettement hein, en termes de PIB. C'est pas extraordinaire. Il y a des pays qui sont en plus de 100, qui sont en difficulté, c'est vrai. Mais globalement, le continent n'a pas un problème d'abord d'endettement. Le continent a un problème.
Pardonnez-moi, quand on regarde les statistiques du FMI, oui, qui publie la liste des 10 pays africains, oui, qui ont le taux d'endettement le plus élevé, il y a quand même, oui, des pays comme le Soudan, 207% du PIB, ou encore l'Angola, 95%. Et ce n'est pas tout. Il y a d'autres pays comme l'Érythrée, 165% du PIB.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous dis qu'en moyenne, l'Afrique est autour de... Si vous prenez le Nigeria, c'est beaucoup moins. Donc, si vous prenez la zone CEMAC, c'est beaucoup moins, c'est autour de 40-50%. En moyenne, l'Afrique, avant la question Covid, était entre 50 et 60% d'endettement. Aujourd'hui, on pense que dans quelques années, on sera à 70%. Allez voir, la France est à 120%, les États-Unis à plus de 100%, etc., etc. Donc, c'est pour dire que oui, il y a des situations particulières, il y a des situations difficiles, mais globalement, l'Afrique n'est pas en surendettement. Par contre, l'élément qui est important à savoir, c'est que l'Afrique est plutôt en sous-financement. C'est-à-dire que quand vous prenez un ratio qu'on appelle le taux de crédit sur PIB, c'est-à-dire l'ensemble des crédits qui sont alloués aux économies par rapport au PIB, l'Afrique en moyenne est très très loin, autour de 44, alors que la moyenne mondiale est de 132. Voyez, pour les chiffres de 2019, hein, là sont les chiffres de la Banque mondiale. Ça veut dire qu'on a des économies qui manquent de financement. Quelles sont les causes d'abord des situations d'endettement qui reviennent? Les causes, c'est d'abord le modèle économique qui n'est pas approprié. Si vous restez dans les matières premières, vous dépendez de l'extérieur et selon la conjoncture extérieure, ben vos comptes se dégradent et vous vous endettez parce que vous n'arrivez pas à avoir un budget de l'État qui rentre suffisamment d'argent pour financer les investissements dont on a besoin.
Surtout de long
terme. Première cause, donc, exactement. Première cause, donc, tant qu'on n'aborde pas la question de la transformation et donc l'industrialisation, mais qui est beaucoup plus complexe aujourd'hui qu'il y a 20-30 ans, parce que c'est la complexité des chaînes de valeur, on importe des produits, on réexporte pour produire, c'est plus complexe. Mais c'est pour ça qu'il faut l'aborder dans un programme beaucoup plus ambitieux au niveau, à l'échelle de l'Afrique. Donc, le deuxième grand problème que nous avons, pourquoi est-ce que nous avons autant de flux financiers illicites, donc trop d'argent qui sort du pays? Nous avons des importations en excès.
En deux mots, M. Bellinga, parce que là, le débat, ce n'est pas sur l'endettement, on était sur les causes, comment mieux financer. Ben, hein. Voilà, donc...
Oui, mais justement, on se trompe de diagnostic, déjà. Parce que si on dit qu'on a un problème de surendettement, alors qu'on a un problème de sous-financement, ben on se trompe.
On pose mal le problème.
C'est ça mon problème.
D'accord.
Exactement.
On va revenir dans quelques instants sur la meilleure façon, selon vous, les experts, la meilleure stratégie pour financer les économies africaines. Monsieur Oumar Sy, dites-nous, finalement, à quoi a-t-on servi ce sommet? Est-ce que c'était juste pour, comme certains le disent aussi, repositionner la France sur l'échiquier africain ou elle perd pied?
Oui, c'est juste plutôt moi je vois que c'était pour relancer la France et relancer aussi certainement l'économie française parce qu'aujourd'hui, on le sait, les États ont des intérêts, ont pas d'amis. Et aujourd'hui, s'il parle de relance de l'Afrique, c'est parce que la France, aujourd'hui, veut garder son précaré. Et comme mon prédécesseur l'a dit, oui, le vrai problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est un sous-financement. La France ne veut pas nous régler ce problème-là. Donc le sommet n'a absolument servi à rien du tout. Les droits de tirage spéciaux ne nous apporteront absolument rien du tout en termes de développement, en termes de réponse à la...
Mais quelle réponse concrète vous attendiez-vous personnellement de ce sommet qui parle de relance de l'économie africaine?
Nous n'attendions même pas à ce qu'on fasse un sommet en France. On s'attendait à ce qu'on fasse un sommet en Afrique avec nos économistes africains, qu'on trouve des solutions endogènes, qu'on puisse nous-mêmes trouver les voies de financement les plus adéquates à notre économie.
Et pour vous, il en existe, évidemment.
Oui, il en existe. Mais on a des économistes africains de renommée. Vous avez deux qui sont là avec nous et d'autres qui ont déjà développé pour l'Afrique. Mais les chefs d'État ou les politiques ont tendance, les chefs d'État africains, ont tendance à vouloir trouver des solutions les plus faciles pour répondre à des demandes sociales. Les demandes sociales ne peuvent pas couvrir nos besoins en termes de développement économique et socio-économique. Aujourd'hui, vous prenez la Chine, elle est à 300% d'endettement. Vous prenez les États-Unis, ils sont à plus de 200% d'endettement. Vous prenez l'Europe, ils sont à plus de 16% d'endettement. L'Afrique est à juste 60% d'endettement.
Merci.
Donc, on a mal posé le problème au niveau de la France. On continue.
Et forcément, des solutions inadaptées, dites-vous.
Et on continue à trouver des solutions inadaptées et on continue à brader nos ressources minérales. Donc,
merci.
Tant que la technologie...
Je suis encore désolé de vous interrompre, monsieur. Si, à tout de suite.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et dans votre émission ce soir, nous allons, disons, avec nos invités, les conclusions du sommet de Paris sur le financement de la relance économique de l'Afrique avec Martial Zebelinga, économiste, Cheikh Oumar Sy, président de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique, OCDEA, Yves Ekwe-Amaizo, économiste. Et je commence par vous, monsieur. Si on n'a plus beaucoup de temps, monsieur, je vous prie d'être vraiment bref dans vos réponses. Nous attaquons à présent la meilleure stratégie selon vous pour relancer les économies africaines. Si les DTS ne sont pas adaptés, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre à niveau les économies africaines, monsieur Sy, en quelques mots?
À mon avis, la première solution que l'on préconise aujourd'hui, c'est que les pays africains, surtout l'espace CEDEAO que je connais le plus, qu'on aille vers la création de la monnaie unique, qu'on puisse au moins détenir une monnaie souveraine pour pouvoir financer notre propre développement. Deuxièmement,
préciser, je suppose que vous parlez de l'ECO, qui est aujourd'hui un projet mort, qui devait voir le jour en 2020. Et d'ailleurs, à ce sujet, en deux mots, s'il vous plaît, la France a annoncé aujourd'hui que, on a indiqué que la France va restituer 5 milliards d'euros de réserves à la BCAO.
Oui, mais qui l'a tué? Qui a tué l'ECO si l'ECO est mort? C'est la France. Parce que l'espace CEDEAO avec le Nigeria, on a les possibilités déjà, on était sur la bonne voie. Qui a tué l'ECO? C'est comme M. Ouattara a annoncé, en n'attendant pas que les dispositifs soient mis en place et qu'il a pris les devants avec Macron. C'est la France qui veut tuer l'ECO pour ses propres intérêts.
D'accord, c'est moi qui vous ai amené sur ce terrain. C'était juste une parenthèse.
Oui,
alors.
Mais la deuxième chose,
s'il vous plaît.
Que les pays africains aillent vers une rationalisation de leurs dépenses publiques. Aujourd'hui, par exemple, je prends le cas pour le Sénégal, nous avons des dépenses, surtout du point de vue de l'administration, qui sont excessives. Et aujourd'hui aussi, c'est qu'il faut mettre des économies endogènes qui sont basées sur l'agriculture, sur l'élevage et sur les ressources halieutiques. Aujourd'hui, le Sénégal dispose de pétrole, de gaz qui peut alimenter toute la sous-région avec la Mauritanie, avec le Mali. Donc, on peut aller vers une mini-industrialisation et conservation des produits parce qu'il faut d'abord créer la sécurité alimentaire, répondre à la demande interne du pays pour pouvoir aujourd'hui aspirer à travers l'industrialisation d'exporter ces produits-là. Nous avons une main-d'œuvre très très jeunes, plus de 60% aujourd'hui en Afrique de l'Ouest sont des jeunes qui tournent autour de 35 ans. Donc la possibilité est là. Et nous devons, avec nos économistes, construire des modèles qui répondent non seulement à notre demande socio-économique, mais aussi qui répondent à notre culture.
Merci.
Je donne souvent ici le modèle de EDK, une société qui a réussi en Afrique, qui a réussi au Sénégal parce qu'ils ont créé des stations qui répondent aux besoins des Sénégalais et qui est un franc succès.
Merci, monsieur.
Il n'a pas eu besoin d'aller à l'international.
Monsieur Zebelinga, en supposant que vous endossez l'ensemble des propositions faites par monsieur Sy, quels autres éléments il faut ajouter pour relancer véritablement l'économie post-Covid du continent?
Alors déjà, il faut raisonner en termes, faut pas raisonner à mon avis en termes de post-Covid, parce que quand on raisonne dans l'urgence, on se trompe forcément. Il faut repenser. Moi, je pense qu'il faut repenser globalement ce qu'on appelle la transformation économique, rechercher la valeur ajoutée, la productivité, l'économie endogène, oui, mais à partir d'un principe, à mon avis, c'est ce qu'on appelle le panafricanisme économique. Pour en clair, il n'est pas possible, chère madame, qu'on ait bientôt 2 milliards d'Africains, 30 000 kilomètres carrés de superficie, des terres, des ressources naturelles, des ressources culturelles, des savoirs endogènes, une diaspora qui est formée dans tous les aspects de la technologie moderne, dans le monde entier, et qu'avec tout ça, on ne puisse pas avoir un espace fiable, ce n'est pas possible. Et donc, il faut d'abord repenser la transformation. Elle n'est pas, à mon avis, suffisamment pensée. On la pense par bribes. Je salue l'initiative et la recherche de la transformation monétaire au sein de la CEDEAO, qui, pour moi, c'est le seul espace pertinent à ce niveau-là. Mais il faudrait repenser la transformation monétaire au niveau global, c'est-à-dire l'articuler avec ce qui se passe dans les autres zones africaines, en Afrique australe, en Afrique de l'Est, etc. Mais surtout, ne jamais délier la monnaie et l'économie réelle. Sinon, on fait fausse route.
Merci.
Ensuite, il y a la mobilisation des ressources internes. On a beaucoup de ressources internes. Il y a trop de flux financiers illicites. Il y a des impôts qui ne rentrent pas assez. Il y a des importations qui sont superflues. Il y a énormément, effectivement, de rationalisation et de mutualisation. En gros, il faut retravailler le panafricanisme économique dans le sens, donc, d'une économie interne, d'une économie endogène et de la valeur ajoutée qu'on peut générer par nous-mêmes.
Monsieur Yves Kouamaizo, en une minute, s'il vous plaît, quels sont les secteurs prioritaires à financer en urgence?
Oui, vous ne pouvez pas dire ça. Écoutez, il y a tout un programme de l'Union africaine. Et tous les secteurs, l'infrastructure, l'industrie, l'agro-mécanisation, les services. Non, le problème, je partage tout ce qui a été dit d'ailleurs. Écoutez, l'Afrique, demain, aujourd'hui déjà, travaille de moins en moins avec les Européens. De moins en moins même avec les États-Unis. Donc écoutez, si vous voulez faire quelque chose de sérieux...
Au profit de la Chine, demain, Asie.
Il faut travailler avec l'Asie. C'est-à-dire que si vous avez des solutions, les Asies, ils ont beaucoup d'argent à disposition et prêts à dépenser sur le moyen et long terme. Ils sont prêts à nous faire rentrer dans les chaînes de valeur. Intégré, vous savez, et il y a l'informatisation avec tout ce qui va avec la fibre optique. Si ce pas peut se faire, vous savez qu'au Rwanda, vous rentrez dans un bus, vous n'avez pas besoin d'argent. Ça se fait électroniquement. Pourquoi tous les bus africains, tous les transports communs, même les émigrants au Bénin ou au Togo, ne peuvent pas se faire sous cette base-là? Nous avons besoin d'innovation. Pour cela, il faut que les chefs d'État, les 21, parce que ce n'est pas tous, hein, les 21, ils arrêtent d'aller faire et se promener en Europe et revenir sans résultat.
Les 21 qui ont participé au sommet de Paris.
Oui, vous savez que le Gabon est allé faire un tour à Londres. Et il a
pour rejoindre le Commonwealth. Voilà.
Et bien sûr. Donc, il y a des solutions. Et
merci.
Si tous les autres chefs d'État avaient fait la même chose, peut-être le message serait différent. Et il y a un point que qu'on n'a pas du tout abordé.
Couper le cordon avec la France, c'est ce que vous dites.
Oui, mais attendez, la France a surtout voulu relancer la France. Et je crois qu'elle a plutôt échoué. Mais
merci.
Ce qui est beaucoup plus grave, c'est que la France a surtout voulu acheter les dettes de la Chine. C'est pour ça que la Chine n'a pas été représentée à très haut niveau. Et elle a les dettes africaines. Pourquoi? Parce que les Africains sont ce qu'ils sont, ils ne remboursent pas comme il faut. Et en rachetant ces dettes-là, ils veulent en fait s'accaparer les capacités productives.
Merci beaucoup, M. Ekwe Amaizo. Je suis navré, le temps est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.